Occitanie, terre d'extase. Extase ? Parce qu'il nous arrive à tous d'être à ce point admiratif d'un site naturel, d'un édifice, d'une œuvre d'art, d'un air de musique, d'un visage, que nous sommes captivés, fascinés, hors de nous-mêmes. Cette fois-ci, l'extase que nous vous invitons à partager est celle de la philosophe Simone Veil en voyage à travers l'Occitanie, morte en Angleterre en 1943. Elle était née à Paris en 1909. Nous allons commencer par sa vie, sa chronologie, en rappelant quelques-uns de ses concepts d'une philosophie qui ne connaît pas de système. Il y a la primauté de l'esprit sur la force du collectif. Il y a sa lutte pour la liberté et la dignité des peuples. Il y a surtout sa quête de vérité consistant à accorder toujours pensée et action. Et puis il y a sa fidélité au christianisme sans soumission à l'Église puisqu'elle n'a jamais été baptisée. Alors sa vie, à partir de sa naissance en février 1909, elle naît à Paris, elle est la sœur d'André Veil, âgé de 3 ans de plus qu'elle, et ils habitent avec leurs parents au boulevard de Strasbourg à Paris. Bernard Veil est médecin et Selma Reinhertz, née à Rostov-sur-le-Don. En 1921, Simone Veil apprend que sa famille est juive. Elle a 12 ans. Elle entre au lycée Fénelon. Un peu plus tard, elle décide de ne pas poser le problème de Dieu, qui pour elle devient insoluble. Elle passe son bac de philosophie en 1925, elle entre en prépa au lycée Henri IV à Paris, et là, rencontre décisive qui va la former et décider de sa vie philosophique, elle rencontre Émile Auguste Chartier, dit Alain, l'auteur des Propos sur le bonheur, et elle sera son élève pendant 3 ans. Simone Veil et Simone de Beauvoir se connaissent, mais ne se supportent pas. À la fin des années 1920, elles préparent ensemble le concours de l'École normale supérieure. Elles passent les mêmes épreuves que Simone de Beauvoir. D'un an plus âgée, au lycée Henri IV, la première est la favorite du professeur Vedette, le philosophe Alain, dont on vient de parler, qui admire la précocité d'une élève toujours courant devant, dit-il. À 19 ans, Simone Veil est reçue au concours de l'École normale supérieure. Sa famille déménage rue Auguste Comte à Paris, face au jardin du Luxembourg. Elle y rencontrera d'ailleurs Trotsky, qui la qualifiera de petite bourgeoise. Elle fait du rugby, de la course à pied et du saut. En juillet 1931, elle est reçue à l'agrégation de philosophie. Dès lors, elle deviendra professeure dans plusieurs collèges et lycées. Mais elle veut aussi goûter la vie de l'usine. Et en 1934, en décembre, elle commence une expérience de travail en usine chez Alstom. Et voici ce qu'elle dit. « Hier, j'ai fait le même boulot toute la journée, en boutissage à une presse. » Jusqu'à 4 heures, j'ai travaillé au rythme de 400 pièces à l'heure. J'étais à l'heure, remarquez, avec salaire de 3 francs, avec le sentiment que je travaillais dur. À 4 heures, le contremaître est venu me dire que si je n'en faisais pas 800, il me renverrait. Si à partir de maintenant vous en faites 800, je consentirais peut-être à vous garder. En avril, Simone Veil cesse son expérience de 5 mois de travail en usine chez Alstom. Mais elle persévère. Au mois de juin, elle commence une expérience de travail à l'usine Renault, à Boulogne-Billancourt. En 1935, autre moment clé de sa vie, Elle séjourne dans un village de pêcheurs au Portugal, Povoa do Varzim, et elle a ce qu'elle nomme une révélation mystique. Et puis, peu après, en 1935, en octobre, elle est nommée professeure de philo au lycée de Bourges. Elle voyage peu après, lorsque la guerre civile espagnole éclate, en Espagne, comme journaliste, au début de cette guerre civile, sur le front de l'Ebre, à Pina de Ebro. Elle se joint à la colonne d'Urruti, du nom de son chef, un anarchiste qui sera tué à Madrid en décembre 1936. En 1937, Simone Veil débute un voyage de 3 mois en Italie. Elle est nommée au retour professeur à Saint-Quentin. Elle prend congé, sa santé devient fragile, et séjourne à Venise. La guerre tout juste déclarée, Simone Veil étudie le sanskrit et lit avec intérêt la Bhagavad Gita. La famille Veil doit fuir Paris à cause du statut des Juifs qui a été promulgué en 1940, fin août, début septembre. Elle est à Toulouse et peu à peu le projet de chercher refuge aux États-Unis prend forme chez les Veil. La famille Veil arrive à Marseille. Simone Veil rencontre Lanza del Vasto, connu sous le nom de ce nom alors qu'il s'appelle Giuseppe Lanza di Trabia Branciforte. Et c'est un disciple chrétien de Gandhi et qui est fondateur des communautés de l'Arche dans le sud de la France. Le 7 juin 41, autre temps très fort de son séjour en Occitanie, elle rencontre à Montpellier le père Perrin, un dominicain, à qui elle fera savoir quelle est sa position vis-à-vis de l'Église dans un texte qui sera publié plus tard sous le titre « Lettre à un religieux ». En août, elle commence à travailler à la ferme grâce à Gustave Thibon, qui est un paysan philosophe, à Saint-Marcel d'Ardèche. Cet homme deviendra d'ailleurs le dépositaire de la majeure partie des œuvres que Simone Veil lui confie avant son départ pour les États-Unis, car elle va partir. Il en remettra une partie à Albert Camus, nouveau directeur de la collection Espoir chez Gallimard, et Camus entamera ainsi, après la guerre, la publication des écrits de Simone Veil. Elle prend part aux vendanges à Saint-Julien de Pérolès. Elle écrit à Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives, en 1942 et 1943. Vallat, il faut le savoir, est violemment antisémite. Ce redoutable orateur borgne, portant bandeau noir sur la cavité oculaire droite, est resté dans les mémoires pour avoir interpellé le tout nouveau président du Conseil, Léon Blum, à l'Assemblée nationale, hurlant à tue-tête que, pour gouverner cette nation, il vaut mieux avoir quelqu'un dont les origines, si modestes soient-elles, se perdent dans les entrailles de notre sol qu'un talmudiste subtil. Cela se passait le 6 juin 1936. Comme on le verra, cet homme deviendra cheville ouvrière de l'antisémitisme, frappé d'indignité nationale à la libération. Voici ce que Simone Veil écrit à cet homme le 18 octobre 1941. « Monsieur, je dois vous considérer, je suppose, comme étant en quelque sorte mon chef, car bien que je n'ai pas encore bien compris ce qu'on entend aujourd'hui légalement par juif, en voyant que le ministère de l'Instruction publique laissait sans réponse, bien que je sois agrégé de philosophie, une demande de poste déposée par moi en juillet 40, à l'expiration d'un congé de maladie, j'ai dû supposer, comme cause de ce silence, les présomptions d'origine israélite attachées à mon nom. Il est vrai qu'on s'est abstenu également de me verser l'indemnité prévue en pareil cas par le statut des Juifs, ce qui me procure la vive satisfaction de n'être pour rien dans les difficultés financières du pays. Quoi qu'il en soit, je crois devoir vous rendre compte de ce que je fais. Le gouvernement a fait savoir qu'il voulait que les Juifs entrent dans la production et de préférence aillent à la terre. Bien que je ne me considère pas moi-même comme juive, car je ne suis jamais entré dans une synagogue, j'ai été élevé sans pratique religieuse, d'aucune espèce, par des parents libres penseurs. Je n'ai aucune attirance vers la religion juive, aucune attache avec la tradition, et ne suis nourri depuis ma première enfance que de la tradition hellénique, chrétienne et française. Néanmoins, j'ai obéi. Je suis en ce moment vendangeuse. J'ai coupé les raisins 8 heures par jour, tous les jours, pendant 4 semaines, au service d'un agriculteur du Gard. Mon patron me fait l'honneur de me dire que je tiens ma place. Il m'a même fait le plus grand éloge qu'un agriculteur puisse faire à une jeune fille venue de la ville en me disant que je pourrais épouser un paysan. Ignorer, il est vrai, que j'ai du seul fait de mon nom une tare originelle qu'il serait inhumain de ma part de transmettre à des enfants. J'ai encore à faire une semaine de vendange. Ensuite, je compte aller travailler comme ouvrière agricole au service d'un maraîcher chez qui des amis m'ont procuré une place. On ne peut pas, je pense, obéir plus complètement. Je regarde le statut des Juifs comme étant d'une manière générale injuste et absurde. Car comment croire qu'un agrégé de mathématiques puisse faire du mal aux enfants qui apprennent la géométrie du seul fait que 3 de ses grands-parents allaient à la synagogue. Mais en mon cas particulier, je tiens à vous exprimer la reconnaissance sincère que j'éprouve envers le gouvernement pour m'avoir ôté de la catégorie sociale des intellectuels et m'avoir donné la terre et avec elle toute la nature. Le gouvernement que vous représentez à mon égard m'a donné tout cela. Vous et les autres dirigeants actuels du pays, vous m'avez donné ce que vous ne possédez pas. Vous m'avez fait aussi le don infini, précieux de la pauvreté que vous ne possédez pas non plus. J'aurais hésité à vous écrire, sachant votre temps pris par d'innombrables soucis. Mais vous ne recevez certainement pas beaucoup de lettres de remerciement de ceux qui se trouvent dans ma situation. Cela vaut donc peut-être pour vous les quelques minutes que vous perdrez à me lire. Veuillez recevoir, Monsieur Valat, l'assurance de ma haute considération. Simone Veil. En 1942, Simone Veil fait connaissance avec l'Occitanie. Nous allons y revenir une fois cette chronologie terminée. Elle rencontre le poète Joé Bousquet à Carcassonne. Joé Bousquet a donné une présentation de l'homme d'oc emplie de lyrisme. La voici. La terre d'oc, un singulier pays où la parole des hommes doit lutter contre le vent et chante si haut, vous diront les voyageurs, que les secrets des amants y sont entendus des oiseaux. Elle se rendra à Dourgne, dans le Tarn, pour écouter les chants grégoriens à l'abbaye Saint-Benoît dans Calcate, durant la semaine de Pâques. Elle y rencontre Don Clément Jacob, qui l'aura jugé hérétique. Elle prend contact avec Déodat Rocher, érudit du catharisme. En mai 1942, Simone Veil fait ses adieux et embarque pour Casablanca. Si nous sommes torpillés, quel beau baptistère, dit-elle en parlant de la Méditerranée, juste avant de monter à bord à son amie Hélène Honora. La famille Veil arrive le 20 mai à Casablanca. Le 7 juin, elle embarque pour New York. Et le 6 juillet, la famille arrive à New York, aux États-Unis. Mais le 19 novembre, seulement 4 mois plus tard, n'y tenant plus d'être éloigné de ses compatriotes qui souffrent de la guerre et de la famine, Veil quitte New York et ses parents et embarque pour l'Angleterre. Le 25 novembre 1942, elle débarque à Liverpool, au Royaume-Uni. Le 14 décembre, elle devient rédactrice dans les bureaux de la France Libre à Londres, résistance française à l'occupation allemande. Elle propose la création d'un corps d'infirmières de première ligne qui serait chargé de rapatrier les blessés restés sans secours sur le front. De Gaulle l'apprend. Il se serait exclamé « Elle est folle !» Elle rédige un projet de constitution pour la République française qui formera la base de son ouvrage intitulé « L'enracinement ». Elle choisit pour ce faire de dresser préalablement les besoins fondamentaux de l'être humain et du citoyen. Sa santé se détériore, elle se nourrit peu, elle est atteinte de tuberculose. Le 15 avril 1943, Veil est trouvée inanimée chez elle, à Londres. En août, très faible, elle est transférée au sanatorium d'Ashford, dans le Kent. Le 24 août, à 17h, elle entre dans le coma. À 22h30, elle décède au sanatorium d'Ashford d'un arrêt cardiaque, soit le jour de la Saint-Barthélemy. Ses obsèques ont lieu le 30 août. Simone Veil est enterrée à Ashford dans la partie du cimetière réservée aux catholiques. Thank you. venons-en maintenant au grand intérêt que porte Simone Veil à l'Occitanie, sa culture et son histoire, et sa venue à Toulouse, Carcassonne et Dourgne. Toute sa vie, Simone Veil se refuse à toute doctrine. Elle n'est que du côté de la vérité. Mais de quelle vérité s'agit-il? Nous allons nous le demander. Ce souci de la vérité est un trait de caractère constant chez elle. De ses plus jeunes années à sa mort précoce, à 34 ans, si on en croit sa lettre, autobiographie spirituelle adressée au père Perrin en 1942, l'obsession de la vérité naît en elle vers 14 ans, après une sorte de crise existentielle. Elle est à l'époque persuadée que seuls les génies peuvent accéder au royaume transcendant, l'expression est d'elle, au royaume transcendant de la vérité, et qu'elle, esprit médiocre, notamment comparé à son frère aîné, qui est féru de mathématiques et qui obtiendra la médaille Fields, le Nobel des mathématiques, elle est condamnée à vivre dans l'illusion et donc dans le malheur. Elle veut donc lutter toute sa vie contre l'illusion. Avec le radicalisme qui la caractérise, elle tranche alors en disant « J'aime mieux mourir que vivre sans la vérité ». Peu à peu, elle se convainc cependant que la vérité est accessible à chacun pourvu qu'il la désire et qu'il se plie à l'effort d'attention, cette mise à disposition de l'esprit pour accueillir la vérité. Cet effort, révèle-t-elle, est par ailleurs le seul qui permette de considérer les malheureux, faisant de l'attention la forme la plus rare et la plus pure de générosité. Encore étudiante, Simone Veil élabore une philosophie du travail bien éloignée de certaines visions de l'époque, qui voyaient en la technique un moyen de se débarrasser du terrible tripalium, c'est-à-dire cet instrument de torture en latin qui a donné le mot « travail » en français. Loin d'être une malédiction, le travail est pour elle une véritable façon d'être au monde. Il est une médiation entre l'homme et son œuvre, mais aussi entre l'homme et les autres, car le travail permet de dépasser son intériorité pour se confronter à la matière. Le travail, fondamentalement, est le propre de la condition humaine. En travaillant, l'homme façonne le réel et se sent appartenir au monde. Il fait l'expérience de sa liberté. Mais de quelle vérité s'agit-il? Pour elle, la première des vérités est d'être en accord avec soi-même. Elle le sera durant toute sa courte vie, jusqu'à l'excès pour certains de ses contemporains qui l'observent. Le souci de la vérité est obsessionnel chez Simone Veil, c'est du moins ce que l'on peut lire dans une de ses lettres autobiographiques. Elle suit les doctrines, on vient de le dire, des doctrines qui ne manqueraient pas de lui imposer leur vérité. Elle reste à l'écart des partis politiques et va jusqu'à prôner leur suppression, parce que tout parti est à l'intérieur foncièrement totalitaire, dit-elle. Au fil de ses réflexions, elle se convainc peu à peu que la vérité est accessible à chacun, à condition de la désirer et de faire cet effort d'attention, mais d'attention avide, qu'elle traduit par le mot grec de hypoméné. Elle tient à revaloriser le travail par une philosophie qui le présente comme un moyen d'être au monde. Elle considère qu'il est une médiation entre l'être humain et ses réalisations. Le travail, enfin, permet de dépasser le soi pour prendre la matière à bras-le-corps et donner forme au réel ou le transformer. Dans ce sens, le travail n'est plus servitude, mais appartenance et liberté. Simone Veil est femme et comprend que son genre, à cette époque, sera un obstacle à la publication de ses écrits. Honni en tant que juive, agnostique, elle redoute de l'être en tant que femme de lettres. Elle se résout donc à prendre un pseudonyme masculin, Émile Novis, qu'elle orthographie N-O-V-I-S. On pourrait se répandre en conjectures sur ce choix, Émile étant le prénom usuel de son maître à penser, Émile Chartier, dit Alain. Quant à Novis, avec la terminaison C-E, peut qualifier celui qui débute et apprend le novice. Une humilité philosophique, en quelque sorte. Son séjour à Marseille, à partir de l'automne 1940, lui permet de découvrir le Languedoc, l'Occitanie. L'Occitanie devient pour elle un vaste sujet de réflexion culturelle, politique, religieuse et philosophique. Elle fait la connaissance de Jean Ballard, qui dirige la Revue des Cahiers du Sud. Une contribution signée Émile Novis paraîtra donc dans l'édition de février 1943, qui a pour titre « Le génie d'Oc et l'homme méditerranéen ». Il s'agit de deux articles parus dans cette édition spéciale. Le premier, intitulé « L'agonie d'une civilisation vue à travers un poème épique », et l'autre, « En quoi consiste l'inspiration occitanienne ?» Elle emploie ce mot d'occitanienne. Voici quelques extraits donc de ces deux textes. Le premier compare la chanson de la croisade contre les Albigeois à l'Iliade de Homère. La chanson décrit des événements, on le sait, qui ont lieu en 1212 jusqu'à 1919. Cette première partie de la chanson est composée par Guillaume de Tudel et un poète anonyme poursuivra la narration jusqu'en 1219. Ces deux parties offrent une chronologie circonstanciée des combats. Voici ce qu'en dit Simone Veil. La civilisation qui constitue le sujet du poème n'a pas laissé d'autres traces que ce poème même. Quelques chants de troubadours, de rares textes concernant les cathares et quelques merveilleuses églises. Le reste a disparu. Nous pouvons seulement tenter de deviner ce que fut cette civilisation que les armes ont tuée, dont les armes ont détruit les œuvres. Avec si peu de données, on ne peut espérer qu'en retrouver l'esprit. Il suffit qu'en lisant le poème de Toulouse et en évoquant ce que l'on sait d'autre part concernant ce temps et ce pays, l'on fasse un effort d'imagination. On verra alors apparaître la ressemblance de ce qui fut. Ce qui frappe tout d'abord dans ce récit d'une guerre religieuse, c'est qu'il n'y est pour ainsi dire pas question de religion. On ne peut guère expliquer ce silence dans un poème aussi vivant où palpite toute une ville. Il faut admettre qu'il n'y avait à peu près pas de dissension religieuse dans la cité, ni parmi ses défenseurs. Guillaume de Tudel donne dans la chanson de la croisade contre les Albigeois un récit de ce qu'il est advenu du roi Pierre II d'Aragon, le jeudi 10 septembre 1213, durant la bataille de Muret. Ruse de Simon de Montfort et imprudence du côté de Pierre II ont suffi, le rêve d'une entité territoriale occitano-catalane est réduit à néant. Simone Veil entreprend de mettre au clair en quoi consiste ce qu'elle nomme l'inspiration occitanienne. La science, dit-elle, montre qu'un accroissement d'énergie ne peut venir que d'une source extérieure d'énergie. Une loi analogue régit les choses spirituelles. Nous ne pouvons pas être rendus meilleurs, sinon par l'influence sur nous de ce qui est meilleur que nous. Ce qui est meilleur que nous, nous ne pouvons pas le trouver dans l'avenir. L'avenir est vide. Et notre imagination le remplit. La perfection que nous imaginons est à notre mesure. Elle est exactement aussi imparfaite que nous-mêmes. Elle n'est pas d'un cheveu meilleure que nous. Vient ensuite sa démonstration sur les effets de la force subie. L'essence de l'inspiration occitanienne est identique à celle de l'inspiration grecque. Elle est constituée par la connaissance de la force. Cette connaissance n'appartient qu'au courage surnaturel. Le contact avec la force est hypnotique. Le courage surnaturel enferme tout ce que nous nommons courage et, en plus, quelque chose d'infiniment plus précieux. Mais les lâches prennent le courage surnaturel pour de la faiblesse d'âme. Connaître la force, c'est la reconnaissant pour presque absolument souveraine en ce monde, la refuser avec dégoût et mépris. Ce mépris est l'autre face de la compassion pour tout ce qui est exposé aux blessures de la force. Ce refus de la force a sa plénitude dans la conception de l'amour. L'amour courtois du pays d'Oc est la même chose que l'amour grec. Tout ce qui est soumis au contact de la force, poursuit-elle, est avili. Quel que soit le contact, frapper ou être frappé, c'est une seule et même souillure. Tout pouvoir avili, ajoute encore Simone Veil. L'amour courtois, en Occitanie, avait pour objet un être humain, mais il n'est pas une convoitise, il n'est qu'une attente dirigée vers l'être aimé et qui en appelle le consentement. Le mot de merci par lequel les troubadours désignaient ce consentement est tout proche de la notion de grâce. En Occitanie comme en Grèce, l'amour humain fut un des ponts entre l'homme et la transcendance, ou, si vous préférez, entre l'être humain et Dieu ou la nature, pour parler avec Spinoza. La même inspiration resplendit dans l'art roman. Sa pensée, Simone Veil cite Bernard de Ventadour. Ce troubadour du XIIe siècle chante l'amour courtois qui le lie à sa dame, et voici les deux premières strophes de l'une de ses célèbres chansons. Quand je vois l'alouette mouvoir de joie ses ailes dans un ray de lumière, tout oublier se laisser choir. Pour la douceur qui l'envahit, hélas, comme j'envie tous ceux qui peuvent y trouver plaisir, je m'émerveille que mon cœur ne se fonde en moi de désir. Là, combien je croyais savoir d'amour et combien peu j'en sais, moi qui ne puis ne pas aimer celle dont je n'aurais profit. Elle m'a pris le cœur et m'a pris avec elle-même et le monde et dans ce rapt ne m'a laissé que désir et cœur assoiffé. Au cours de son voyage en Occitanie, toujours, Simone Veil se rend chez Joé Bousquet, on l'a dit. Il habite Carcassonne, dans l'immense maison aux 100 fenêtres, au numéro 53 de la rue de Verdun, où se trouve de nos jours la maison des mémoires et le centre qui porte le nom de ce poète. Joé Bousquet, né en 1897 et mort en 1950, est engagé volontaire à 17 ans, médaillé militaire et sous-lieutenant à 18 ans, touché à la colonne vertébrale à 21 ans et désormais paralysé à vie des membres inférieurs. Joé Bousquet ne vit pas en reclus, il écrit sans relâche. Il crée en 1928 avec ses amis carcassonnais Nelly et Alquier la revue Chantier. Et c'est en avril 1941 que Simone Veil lui envoie sa pièce de théâtre « Venise sauvée » avec quelques poèmes pour qu'il lui donne son avis et aussi, sans doute, pour qu'il conserve ses écrits au cas où elle mourrait. « J'ai été très touchée, dit-elle, de constater que vous aviez fait véritablement attention aux quelques pages que je vous ai montrées. L'attention est la forme la plus rare et la plus pure de générosité. Il est donné à très peu d'esprit de découvrir que les choses et les êtres existent. » Simone Veil, d'ailleurs, est philosophe, mais elle aurait voulu être poète. Quoi qu'il en soit, elle peut faire sienne la parole de Joé Bousquet, qui dit « Poète, ne dis pas « il pleut », fais pleuvoir. » En janvier 1941, Simone Veil prend contact avec Déodat Rocher, magistrat audois et grand érudit du catharisme. Voici ce qu'elle lui écrit. Depuis longtemps déjà, je suis vivement attiré vers les cathares. Bien que sachant peu de choses à leur sujet, une des principales raisons de cette attraction est leur opposition concernant l'Ancien Testament que vous exprimez si bien dans votre article, où vous dites justement que l'adoration de la puissance a fait perdre aux Hébreux la notion du bien et du mal. Le rang de texte sacré accordé à des récits pleins de cruauté impitoyable m'a toujours tenu éloigné du christianisme, d'autant plus que depuis 20 siècles, ces récits n'ont jamais cessé d'exercer une influence sur tous les courants de la pensée chrétienne. Si du moins on entend par le christianisme les églises aujourd'hui classées dans cette rubrique, saint François d'Assise lui-même, aussi pur de cette souillure qu'il est possible de l'être, a fondé un ordre qui, à peine créé, a presque aussitôt pris part aux meurtres et aux massacres. Elle pense ici à l'Inquisition. Je n'ai jamais pu comprendre comment il est possible à un esprit raisonnable de regarder le Yahvé de la Bible et le Père invoqué dans l'Évangile comme un seul et même être. Chères auditrices, chers auditeurs, vous voici arrivés au terme de cette rencontre avec Simone Veil et sa fascination nostalgique pour l'Occitanie. Merci d'avoir été à l'écoute de Occitanie, Terre d'Extase, une émission préparée et animée par Pierre-Jean Brassac, avec la précieuse coopération technique de Shelley et la bienveillance de Jean-Luc Palévaudy et de Jacques Lavergne.